14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Les policiers de la PJ de Tours ont touché le fond de l'horreur en élucidant le mystère de la femme dépecée, découverte à Chambray il y a 8 jours. Comble de l'horrible, Sylvie dépecera sa victime le lendemain et dispersera les restes macabres sur des parkings voisins, sauf la tête.
Bonjour, un cas unique dans les annales criminelles. Les spécialistes n'ont jamais réussi à trouver un cas semblable, une femme qui assassine sa meilleure amie et la dépece toute seule, guidée par une rage incommensurable. C'est le geste extrême commis en 1988 par Sylvie Reviriego, une femme que l'on va aussitôt surnommer la dépeceuse de Tours. Un cas criminel sans équivalent, mais également un cas clinique sur lequel vont se pencher les psychiatres. Sylvie Reviriego n'avait-elle pas toute sa raison quand elle est passée à l'acte? La réponse sera non. Cette mère de famille était lucide et savait ce qu'elle faisait. Une autre piste pour expliquer à tout prix ce geste fou va alors se dessiner, celle d'un cocktail médicamenteux dévastateur, un traitement pour maigrir qui l'aurait placée dans un état de transe incontrôlable, au point de ne voir plus d'autre issue que celle du meurtre. La réponse sur ce point, on va le voir, sera un peu plus hésitante. Pourquoi Sylvie a-t-elle décidé un matin de tuer Françoise et d'éteindre à jamais son regard? Question posée à nos invités et acteurs de cette histoire. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Sylvie Reviriego en ce mois de décembre 88. Le nom de cette aide-soignante va apparaître derrière la découverte d'un puzzle macabre dans l'agglomération de Tours. Un corps fraîchement dépecé ne manque que la tête. Ce mardi 13 décembre 1988, peu après 11h, deux sacs poubelles attirent l'attention d'une équipe d'agents d'entretien sur le parking de l'hôpital Trousseau à Tours. Les deux gros sacs fermés ont été curieusement abandonnés à la vue de tous sur une bande gazonnée qui sépare les places des automobiles. Leur ouverture fait sursauter les témoins. À l'intérieur, des morceaux de corps sanguinolents et entremêlés. La police est prévenue. Le décompte macabre fait apparaître deux bras, deux moitiés de jambes et un buste nu dont on distingue les seins. Il s'agit d'une femme. Le reste du corps est absent. L'idée d'une blague de carabin, l'école de médecine et la morgue de l'hôpital sont toutes proches. Cette idée surgit dans tous les esprits, mais elle est vite écartée. Le commissaire Claude Perverie, patron de la PJ de Tours, penche sans hésiter pour un crime. Des témoins sont interrogés, mais personne n'a vu quiconque déposer les sacs. Mercredi 14 décembre, vers 18h, un troisième sac est découvert dans une zone commerciale de Tours, à l'arrière du grand magasin discount, l'usine aux vêtements. Un chien, attiré par l'odeur, l'a déchiré. À l'intérieur, une partie du buste. La même victime, la tête, est manquante. Les légistes indique qu'avant avoir été découpée avec un couteau de boucher, la femme a eu les veines des poignets profondément sectionnées à l'aide d'une lame fine, coupante comme un rasoir. L'autopsie indique que l'inconnue a absorbé une dose non négligeable de neuroleptiques ainsi que d'autres médicaments. La découpe a été faite post-mortem. Impossible d'identifier la victime, retrouvée nue et qui ne portait ni bijoux ni tatouages. Ses empreintes sont inconnues dans les fichiers de police. Un appel à témoins est lancé dans le journal local La Nouvelle République. Il fait état de quelques éléments distinctifs, une scoliose prononcée, une trace de vaccin BCG sur l'omoplate gauche ou encore des taches blanches sur le thorax, mais personne ne se manifeste. 17 décembre, 4 jours après la découverte des premiers sacs, une femme appelle le commissariat. Le témoin veut rester anonyme. Elle indique que la victime est Françoise Gendron, domiciliée rue de la Vallée Violette, dans la banlieue de Tours. Information vérifiée. L'appartement à l'étage d'une résidence tranquille est vide. Le chat de la maison n'a pas été nourri depuis quelques jours. Un léger désordre dans la cuisine, mais pas de traces de violence ou de lutte. Un relevé d'empreintes révèle que Françoise Gendron, 38 ans, sans emploi, mère d'un fils qui n'habite pas chez elle, eh bien la dépecée. Yves, un homme qui l'a fréquenté depuis peu, indique qu'il était chez elle au soir du lundi 12 décembre. Il l'attendait, mais elle n'est jamais venue. Une femme a alors appelé pour lui dire qu'elle était partie en Vendée chez des amis. Le petit ami est rapidement mis hors de cause. Un autre témoin, Christian, venu déposer un rouleau de papier peint chez Françoise, l'a vu, lui, au matin du lundi 12 décembre. Elle sortait de son bain. Elle lui a dit qu'elle avait failli s'électrocuter avec un sèche-cheveux. Il se souvient que c'est une autre femme qui lui a ouvert la porte. Celle-là, Il ne l'avait jamais vue, la quarantaine, cheveux blonds, elle n'a pas dit un mot. Heure du crime, consacrée aujourd'hui à l'affaire Sylvie Reviriego à Tours en décembre 1988. 8 jours après la découverte d'un corps dépecé dans des sacs poubelles, cette aide-soignante est interpellée par la police. Ce 21 décembre 1988, à 9h30, une équipe d'inspecteurs de la PJ de Tours se présente au domicile de Sylvie Reviriego. Un appartement dans une résidence moderne et propre. Cette aide-soignante de 37 ans, qui travaille à l'hôpital, dans le service chirurgie thoracique, est en arrêt maladie depuis quelque temps. Elle souffre de vives douleurs au dos. Sylvie Reviriego est divorcée. Elle vit ici avec ses enfants, une fille de 16 ans, un fils de 14 ans. Un appel anonyme a évoqué son nom et celui de deux hommes, Michel et Luc, dans la mort atroce de Françoise Gendron. Sylvie Reviriego ne semble pas surprise par cette visite. Elle accepte la perquisition. 2 couronnes en or sont retrouvées dans la salle de bain. Elle dit ignorer d'où elles proviennent. Derrière la trappe de la baignoire, des bijoux dans un coffret et des taches brunâtres, un peu de sang. L'aide-soignante est placée en garde à vue. Elle ne résiste pas aux policiers. Dans un premier temps, elle accuse les fameux Michel et Luc d'avoir découpé son amie Françoise. Mais ce scénario s'effondre avec l'audition des deux hommes. Dans la soirée, pendant plus de 3 heures, elle va alors raconter avec un luxe inouï de détails la véritable histoire. Lundi 12 décembre, Sylvie Reviriego explique qu'elle s'est rendue chez Françoise Gendron avec la volonté parfaitement claire de la tuer. « Il fallait que Françoise disparaisse », répète-t-elle à plusieurs reprises. Elle l'a trouvée en train de prendre son bain. Elle a eu l'idée de laisser discrètement tomber dans la baignoire le sèche-cheveux au fil dénudé, mais Françoise a juste pris une bonne décharge. Sylvie a ensuite entraîné Françoise chez elle sous prétexte de lui faire essayer un nouveau bustier. Sur place, elle lui a servi un thé bourré de Lexomil, un tranquillisant. Françoise a commencé à somnoler, elle l'a aidé à s'allonger. Quand les enfants sont rentrés de l'école à midi, elle leur a dit que Françoise avait un peu trop bu. Elle leur a servi le repas. Après leur départ, Sylvie a resservi un thé au Lexomil, a placé Françoise chancelante dans la baignoire. Elle lui a ouvert les veines avec un scalpel, a essayé de la découper sans succès. Elle a enroulé le corps dans une couverture et l'a placé sur le balcon. Le soir, elle a fêté comme si de rien n'était l'anniversaire de son fils avec une dizaine d'invités. Mardi 13 décembre, 7h30, dans sa blouse de soignante, elle a commencé sur son balcon à découper le corps avec un couteau de chasse. Elle a mis les morceaux dans des sacs poubelles. Elle a demandé à son fils, qui ignorait tout de leur contenu, de les déposer jusque dans le coffre de sa Renault 4. Elle est partie les jeter. Dans les 2 jours suivants, elle s'est occupée de la tête placée dans un seau. Une tête qu'elle ne voulait pas regarder. Elle l'a brisée à coups de marteau, l'a ensuite carbonisée dans le four. 3 jours plus tard, elle a balancé ses derniers restes dans la Vienne, sous le pont de chemin de fer en direction de Chinon. Son fils, qu'elle conduisait alors chez son père, était présent. Elle lui a dit qu'elle jetait des détritus. Le 21 décembre, Sylvie Reviriego est mise en examen pour meurtre avec préméditation. « Je n'en pouvais plus des jérémiades de Françoise », a-t-elle répété sans cesse aux enquêteurs.
On a considéré ma fille comme un monstre. Ma fille n'est pas un monstre. On a fait son parcours avant. Elle n'a jamais été méchante. Alors, donc, il y a une raison qui l'a fait basculer, voyez-vous. Je n'ai de haine pour personne. Je pense que la justice est passée à côté de la vérité.
Au programme de l'heure du crime, le dossier Sylvie Reviriego. En décembre 88, cette mère de famille de 37 ans a tué et dépecé sa meilleure amie Françoise Gendron. Les psychiatres s'interrogent sur ce cas criminel unique, tout comme les toxicologues qui se penchent sur la piste des médicaments. Écrouée à la prison pour femmes d'Orléans, Sylvie Reviriego est décrite par les psys comme une femme déterminée qui résonne parfaitement. Elle aurait éprouvé de la jalousie par rapport au bonheur des autres et ceux qui auraient mieux réussi qu'elle, rapporte un psychothérapeute. Son avocate, maître Catherine Lison-Croze, se tourne, elle, du côté de la toxicologie. Elle note que Sylvie Reviriego avalait quotidiennement un cocktail de médicaments destinés à la faire maigrir, diurétique, extrait thyroïdien, amphétamine et coupe-faim. Une potion magique déjà interdite à l'époque, mais prescrite en bonne et due forme par un généraliste de Blois, bien connu pour ses traitements amaigrissants. À l'issue de cette affaire, il sera suspendu d'exercice pendant 3 mois par le Conseil de l'Ordre des médecins. La défense de la dépeceuse pense que ce mélange a pu agir sur son comportement au point de lui faire perdre toute clarté. Les rapports des toxicologues admettent que ces médicaments constituent une redoutable association, mais seulement si le sujet est déjà en proie à une certaine démence. Et ce n'est pas le cas pour l'aide-soignante. Claude Reviriego, la mère de Sylvie, raconte que ces derniers temps, elle avait changé. Elle avait beaucoup maigri, passant de la taille 42 à un 36. Elle serait devenue agressive vis-à-vis de sa famille. « Je ne reconnaissais pas ma fille », dira-t-elle. Après quelques mois de détention et après avoir raconté à plusieurs reprises son crime, Sylvie Reviriego va se dire incapable d'en dire plus. Elle assure d'être amnésique et ne plus se souvenir du jour où elle a tué Françoise. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le dossier Sylvie Reviriego, cette aide-soignante, mère de 2 enfants, est accusée d'avoir dépecé Françoise, sa meilleure amie. Été 1991, 3 ans après les faits, elle s'apprête à être jugée. Ce 24 juin 1991, Sylvie Reviriego, toute de noir vêtue, serre-tête de velours noir dans de longs cheveux blonds, comparaît devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire à Tours. Procès annoncé comme spectaculaire, la salle est comble pour essayer d'apercevoir la dépeceuse et de capter son regard. Elle va pourtant garder les yeux baissés pendant tout le procès, même le fils de la victime ne parviendra pas à la regarder en face. Sylvie Reviriego ne va pas raconter une nouvelle fois la terrifiante semaine du 12 décembre. Sa mémoire ne lui revient pas, elle est incapable de s'exprimer. Lors de l'enquête, elle avait dit ne plus avoir supporté les rires vulgaires de Françoise Gendron, son aisance débridée avec les hommes. Elle l'avait qualifiée de sangsue, d'une femme qui la tenait sous sa coupe. Il faut s'en tenir là. Au 2e jour d'audience, elle répond pour la première fois en disant qu'elle n'en voulait pas à Françoise au point de faire une chose pareille. La défense de Sylvie Reviriego va tenter de plaider l'altération du jugement de sa cliente lors de ses actes. Elle n'aurait pas été consciente de ce qu'elle faisait au moment où elle le faisait, notamment à cause de l'absorption de médicaments. Au nom de l'article 64, alors en vigueur, elle ne peut pas être jugée mais doit être internée en psychiatrie. L'accusation balaie ses arguments évoquant un dépeçage offensif, né tout simplement de la haine. L'acharnement sur la tête de la victime est le signe qu'elle voulait gommer à tout prix cette existence. Le 27 juin, peu après 20h, Sylvie Reviriego est condamnée à la perpétuité. Heure du crime avec aujourd'hui le dossier Sylvie Reviriego, la plus lourde des peines pour la dépeceuse de Tours, perpétuité pour le meurtre atroce de Françoise. Après plus de 20 ans de prison, elle obtient une libération conditionnelle. Fin août 2009, dans la plus grande discrétion, Sylvie Reviriego, 58 ans, quitte le centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. Ses demandes de libération conditionnelle avaient été jusque-là refusées, celle-ci est la bonne. Hors des murs de la prison, la femme qui avait tué et dépecé sa meilleure amie sera soumise à des contrôles stricts, contrainte de respecter un suivi psychiatrique. Les experts notent qu'elle ne montre plus de dangerosité. Selon son dernier avocat, maître Pierre-Olivier Sûr, Sylvie Reviriego va alors bien. Elle va s'installer loin de Tours et a trouvé un emploi de secrétariat. L'avocat précise que la condamnée va tenter de refaire sa vie et pourquoi pas se remarier. Selon maître Sûr, sa cliente avait bel et bien agi sous l'emprise d'une force extérieure et n'avait plus son libre arbitre. Depuis sa libération, Sylvie Reviriego n'a plus jamais fait parler d'elle. Personne ne sait si elle a un jour compris les raisons qui l'avaient poussée à découper Françoise Gendron afin de l'éliminer à tout jamais.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.